Actu SF, les podcasts.
Bien, bonjour. Cinquième et dernière session sur le transhumanisme, où cette fois-ci nous nous demanderons demain le transhumanisme. Qu'est-ce que ce sera ? Je vais reprendre quelques citations de John Desmond Bernal que j'avais pu présenter lors de la troisième session, je crois, qui est un cristallographe au début du XXe siècle, qui avait écrit un petit mémoire très intéressant qui s'appelle « Le monde, la chair et le diable » en 1929 et qui avait inspiré Lovecraft dans certains de ses récits, qui a inspiré Heinlein et Arthur Clarke, lequel il le cite dans « Profil du futur, ses visions de l'avenir ». Il y a deux futurs, le futur du désir et le futur du destin. Et la raison de l'homme n'a jamais appris à les séparer. Le désir, la chose la plus forte au monde, est lui-même tout avenir. Et ce n'est pas pour rien que dans toutes les religions, le motif est toujours le même. Les sciences physiques, dans la mesure où nous les connaissons, nous donnent le matériau dont l'avenir est construit. La matière nous apparaît comme une loi physique, mais il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une tautologie. Si l'avenir, selon nos désirs, est une illusion, nos désirs tendent déjà, paradoxalement, à être le principal agent de changement de l'univers. C'est seulement que le changement réel est si rarement le changement souhaité. Alors à cela, il y a une explication inhérente à l'humain. La vie intellectuelle, à la fois dans ses aspects scientifiques et esthétiques, n'est plus perçue comme la vocation de l'esprit rationnel, mais comme une compensation, comme une perversion de désirs plus primitifs, non satisfaits. Donc pour Bernal, le scientifique moderne est un sauvage primitif. S'il est actif et entreprenant, il traque sa proie, seul ou en petits groupes. S'il est travailleur et consciencieux, il rassemble et accumule les produits naturels autour de lui. Mais pour son succès, il doit remercier non seulement son talent et le savoir-faire de son métier, mais aussi la richesse de la nature et la pénurie de ses compagnons. Donc, si le transhumanisme entend rompre avec la vision statique et idyllique d'une nature pour en quelque sorte la parfaire, comment peut-il prétendre restaurer les dégâts environnementaux et remédier à la pénurie de matières premières ou de ressources? Contient-il, dans ses promesses, les éléments de réponse aux problèmes qui s'accumulent? Ou bien évolue-t-elle, un peu aveuglement, à l'écart de la société et des problèmes concrets, dans une bulle centrée sur la quête d'un bonheur hédoniste? Voilà. Donc, pour discuter de tout cela, avec moi, j'ai Sylvie Bérard, qui donc habite en Ontario. Docteur en sémiologie, elle enseigne les littératures et la création littéraire à l'université. Sa recherche, avec des travaux qui portent sur la littérature autochtone, queer et la science-fiction. En même temps, elle tient la chronique mensuelle La Page Décentrée dans le bulletin de l'Association pédagogique et pratique canadienne en création littéraire. Elle a deux romans de science-fiction chez À lire, Terre des Autres, qui a obtenu le prix Boréal, le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois et le prix des lecteurs Radio-Canada, et la saga Dilige en 2011. Terre des Autres est un dramatique choc des cultures entre des humains arrivés sur une autre planète. On voit les problèmes qui se créent au fur et à mesure. Elle a aussi écrit un roman à essai, une sorte de nitescence langoureuse, et un recueil de poésie, Oublié. Après Florent Boissonnet, créateur de vitraux contemporains, lesquels vitraux sont principalement inspirés par la science, la physique et l'astronomie, dans le but de faire ressortir les grandes forces de l'univers, les paysages de l'infiniment petit, est le secrétaire de l'association française transhumaniste Technoprog. L'AFT, donc, cherche à promouvoir les technologies qui permettent de dépasser la condition biologique et sociale de l'humain dans une perspective humaniste, responsable et écologique par rapport aux équilibres environnementaux, aux risques sanitaires qui s'opposent aux visions du transhumanisme libéral, voire ultra-libéral d'outre-Atlantique. Donc c'est peut-être une version plus à gauche de Humanity Plus. Et puis Antonio Caselli, sociologue français, spécialiste des réseaux sociaux, maître de conférences en humanité numérique à Télécom Paris Tech et chercheur au centre Edgar Morin. Ses principaux domaines de recherche sont la CAO, donc la communication assistée par ordinateur, le corps, le travail et la politique. C'est un chroniqueur régulier aux émissions La Grande Table et Place de la Toile sur France Culture. Il est l'auteur des liaisons numériques vers une nouvelle sociabilité, sur les nouvelles formes de sociabilité contemporaine. Et avec Dominique Cardon, il a écrit « Qu'est-ce que le digital labore ?» chez INA. Et son prochain livre sur le digital labore est à paraître au seuil. Et puis donc Raphaël Granier de Cassagnac, qui est un écrivain et un physicien des particules au CNRS, qui cherche à caractériser le plasma de quark et de gluon, est l'auteur de deux romans actuellement, de Thinking Eternity et de Eternity Incorporated. Il y aura un troisième volume, qui nous montre un futur proche avec les clonages, les réalités virtuelles, les implants cybernétiques. Il a aussi dirigé les premiers ouvrages de la collection Ouroboros, qui nous offre une immersion très imagée dans les univers d'auteurs de science-fiction. Je le remercie une fois de plus de nous avoir invités quand même certains auteurs grâce à lui et à Mathias Echenet, l'éditeur de La Volte, à visiter le LHC au CERN à Genève. Nous avons été ravis de pouvoir voir ce temple de la technologie. Très bien. Donc, nous pouvons commencer le débat. Le transhumanisme permettra-t-il de faire face aux enjeux actuels ? Et alors, de quelle manière ?
Bonjour. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut poser au transhumanisme en particulier de répondre à toutes les échéances que nous avons par rapport à... Est-ce que c'est la réponse transhumaniste que vous désirez, ou est-ce qu'il faut que le transhumanisme réponde à ça ?
Alors, on pourrait reprendre peut-être la charte, les déclarations de Humanity Plus, qui disait que l'avenir de l'humanité va être radicalement transformé par la technologie, et qu'il convient de mener des recherches méthodiques pour comprendre ces changements ainsi que leurs conséquences, adopter les technologies à bon escient au lieu de les interdire, et planifier l'avenir dans le respect des principes de l'humanisme moderne. Bon, on a déjà une sorte de planification de l'avenir, et à ce moment-là, ça concerne tout le monde. Ça, c'était la première déclaration de 1999, qui a été modifiée en 2012, où on dit que l'humanité sera profondément affectée par la science et la technologie, et que ce potentiel qui n'est toujours pas réalisé, face aux graves risques que court peut-être l'humanité en ce moment, il y a des décisions à prendre pour des visions morales et fédératrices qui permettront d'améliorer la société, de donner le bien-être à toutes les intelligences, et donc d'arriver à améliorer un petit peu tout ça. Je pense que peut-être qu'avant l'amélioration de l'humain devrait peut-être pouvoir d'améliorer le reste de la planète, de l'environnement.
Si je comprends bien, Claude, la question que tu poses, c'est est-ce que... Le transhumanisme, c'est souvent vu comme l'affaire d'un petit nombre de gens. Est-ce que ça peut être utile pour régler les grands problèmes de l'humanité ? Il faut peut-être les citer, en fait. Le réchauffement climatique en est un, évidemment. Je crois que dans l'intitulé, on parlait aussi de l'exploration de l'espace. Est-ce que la démarche transhumaniste peut nous aider, non pas à améliorer des humains dans leur individualité, mais à participer d'une grande aventure humaine générale ?
Voilà, c'est ça.
En ce qui concerne notre planète, peut-être pas pour les voyages là, sur d'autres planètes, mais j'hésite à considérer si c'est une solution courageuse ou paresseuse. dans le sens où on a une planète bousillée, qu'on a nous-mêmes bousillée. Alors, on se dit, ah, ben pas de souci, on va se transformer, on va s'adapter à la catastrophe qu'on a causée, pas de problème, au lieu de transformer, au lieu de transformer les habitudes humaines, qui serait aussi une sorte de transhumanisme plus humaniste. Alors, j'hésite un petit peu à penser que c'est la solution miracle au désordre qu'on a instauré.
Oui, enfin, ce que tu veux dire, donc, c'est plutôt l'adaptation au changement, tant pis, on ne peut rien y faire, plutôt que d'essayer de remédier à la situation.
Oui, c'est ça, on n'arrive pas à respirer dans l'air qu'on a contribué à polluer, alors, ben, changeons nos poumons. C'est sûr que ça utilise la créativité humaine et c'est parfait pour les auteurs de science-fiction, mais pour une espèce, je ne suis pas certaine que c'est la solution qui me plaît le plus.
D'une manière générale, les transhumanistes ne pensent pas, bien qu'il puisse y avoir certains qui pensent qu'on doit se transformer pour s'adapter aux changements qu'on a nous-mêmes induits dans l'écologie, mais en général, c'est pas le but. L'idée, ça serait quand même de contenir ce problème écologique et de se transformer pour d'autres manières. Maintenant, si ça peut être un outil qui nous aide malgré tout, malgré nous, à le faire, peut-être, mais ce n'est pas le but premier. Et pareil pour le voyage dans l'espace, l'idée, en général, même si certains, un très petit nombre, ont pu dire que la planète est en danger, allons en trouver d'autres, je crois que c'est très, très, c'est très restreint comme nombre de gens qui puissent penser ça. En général, l'adaptation auquel on pense pour le spatial, c'est, effectivement, notre corps n'est pas adapté au milieu spatial. Si on peut l'adapter mieux, on fera explorer l'espace de manière plus aisée, plus efficace. Voilà, c'est le sujet. Mais l'idée n'est pas d'aller trouver une autre planète pour jeter celle qu'on a abîmée déjà. C'est pas l'idée qui court parmi les transhumanistes en général.
Oui. Si je peux, disons que ce qui me surprend dans cette amorce de débat est qu'on revient à une vision du transhumaniste qui est complètement ancrée dans les mouvements et même les priorités politiques du XXe siècle. Le transhumanisme, qui a évidemment vocation à se présenter comme une mouvance de pensée orientée vers le futur, penchée vers le futur, dangereusement penchée, au contraire, est quelque chose de complètement enraciné dans une période, années 50-70, je dirais. C'est le moment où, entre la publication de Transhumanism de Huxley, en 56, je crois, et l'autre Are You Posthuman de FM 2030, qui était une publication de 74. C'est des questions, l'exploration spatiale, l'écologie, j'ajouterais aussi la question de la relation des genres, parce que l'ouvrage dans lequel cet essai de FM 2030 paru était un ouvrage qui s'intitulait Femme 2000. Donc c'était sur sur des questions qui finalement sont plus ou moins toujours les mêmes, et je remarque qu'il y a une certaine tendance du transhumanisme à ne pas se renouveler dans son répertoire de priorités, dans ses instruments et de passer à côté d'un tas d'autres questions. Passer à côté, par exemple, des questions de population ou surpopulation, en y privilégiant, par exemple, des questions relatives à l'immortalité. Moi, j'aime bien réfléchir.
Alors, c'est quelque chose auquel on pense, puisqu'il y a des réponses là-dessus.
Oui.
Il y a des réponses sur ce sujet-là, donc il n'y a pas de problème, on y pense. Et pour ce qui est de la continuité des pensées, finalement, le transhumanisme répond à un désir qu'a toujours eu l'humanité, c'est-à-dire de se dépasser. Et on fait juste le constat qu'aujourd'hui, on commence à avoir les outils qui permettent de réaliser ces désirs qu'on a toujours eus de nous dépasser nous-mêmes, de dépasser notre nature. Parce que ce dépassement de la nature humaine, on le retrouve dans les mythes les plus anciens, dans même c'est très connu, cette histoire de... alors c'est sumérienne, ou je crois que c'est sumérienne, Gilgamesh, voilà, qui va chercher un filtre d'immortalité. Donc on est Et ça a toujours été. Voilà. Je peux juste répondre sur l'immortalité par rapport aux transhumanistes. On parle de la mortalité. Voilà. L'immortalité, c'est une notion un peu carrément métaphysique. Nous, on parle du fait de ne pas mourir, d'essayer de ne pas mourir de maladie et de vieillesse. Après, tout ce qui est accident, guerre, ennui, suicide, ennui, voilà ce que vous voulez, je vous rassure, on continuera de mourir. Mais voilà. Et pour ce qui est de la continuité, oui, c'est la continuité, c'est que finalement, c'est un fantasme éternel et qu'on réussit avec les outils actuels à pouvoir rendre réel. Commencer à pouvoir rendre réel. Parce que c'est intéressant d'ailleurs que le débat dise qu'est-ce que va devenir le transhumanisme, sachant qu'il n'existe pas pour le moment. Aujourd'hui, les seuls transhumanistes que je connais, c'est les gens qui font de la chirurgie esthétique. Et je ne vois pas d'autres pour le moment.
Et les gens qui se revendiquent transhumanistes chez Google, qui est une autre...
Ah oui, non, mais moi, je me suis revendiqué transhumaniste, mais je n'ai pas de puce, je n'ai pas, d'augmentation quelconque. Ouais,
vous n'êtes pas un transhumain, vous êtes transhumaniste.
Voilà, je suis transhumaniste, mais je ne suis pas transhumain. Voilà.
Oui. Moi, quand vous dites que le transhumanisme n'existe pas, moi, je suis toujours partagé entre ce point de vue-là et le point de vue de dire qu'en fait, le transhumanisme existe peut-être depuis toujours. Hier, on avait un peu conclu Transhumanisme 4 là-dessus. Quand un homme préhistorique ramasse le premier caillou et le lance, il est déjà en train de s'augmenter. Et ça, c'est vraiment le tout début. Et puis, de proche en proche, comme ça, on peut arriver jusqu'à aujourd'hui, les rêves. Vous parlez de fantasme, pour moi, c'est même pas un fantasme, c'est déjà une réalité, dans une certaine mesure. Mais d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, et en particulier dans une incorporation d'outils internes. Mais pour moi, le transhumanisme, c'est quelque chose qui... C'est l'humanisme, en fait. C'est continu depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on arrive à des technologies qui font qu'on se pose les questions, peut-être un peu puissance 10 par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais c'est des questions qu'on se pose depuis toujours. On est tous vaccinés, notre vie est déjà augmentée, en fait, dans une certaine mesure.
Mais c'est pour ça qu'au sein des centres transhumanistes, le fait d'intégrer la technologie en nous, en fait, ne nous choque pas parce qu'on se considère être dans la continuité. Aujourd'hui, auparavant, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, ça commence à être pensable. Et ça ne nous choque pas. C'est effectivement la continuité du geste de prendre une pierre pour... aller plus loin, pouvoir atteindre un objectif plus loin que celui qu'on pouvait simplement avec notre simple main. Et le fait d'intégrer la technologie, ce qui est finalement, pour nous, la technologie, c'est une extériorisation de notre esprit, notre pensée, qui s'extériorise. Et donc, la réintégrer, si c'est possible, si ce n'est pas dangereux pour notre corps, enfin bref, une fois que les technologies seront au point, ça ne nous choque pas du tout. Pour nous, on est vraiment dans la continuité. On ne pense pas que... Je sais que pour aujourd'hui, ça semble être une rupture parce que le fait de toucher au corps, je sais que c'est la limite qui est taboue aujourd'hui. Ça choque. Pour nous, non. Voilà. On va transformer notre corps comme on a transformé le monde autour de nous et ça ne nous choque pas plus que ça.
Et dans quelle mesure cette rupture est vraiment quelque chose qui choque ? Qui relève du tabou. Je veux dire, toucher un autre corps, on le fait, on a des lunettes. Oui. Ma grand-mère, un pacemaker et une hanche artificielle, est-elle cyborg pour autant ? La question devient plutôt de l'encadrement institutionnel, de ce changement du corps. Parce que jusque-là, on l'a fait au nom de certaines choses, par exemple au nom de la médecine, au nom de la réparation de soi. Mmh. Et par contre, un discours qui traverse, qui irrigue le transhumanisme, est l'idée de pouvoir choisir l'augmentation. Oui. Et alors, de ce point de vue-là, peut-être, là, on est face à quelque chose de différent par rapport même aux mythes qu'on a évoqués. Parce que ces mythes étaient souvent associés à des formes de malédiction ou à des formes de nécessité d'aller chercher un dépassement de soi. Même Dante, quand parle la première fois qu'il prononce le mot transhumanar, le verbe, traverser la condition humaine dans la Divine Comédie, il le dit parce que sinon tu ne peux pas accéder à l'au-delà. C'est nécessaire de transhumaniser. Transhumaniser.
C'est effectivement, alors on a parlé de nécessité pour aller plus loin, effectivement, plus loin que ce qu'on sait. C'est pas simplement de courir plus vite, d'être plus fort, de lancer une balle plus fort pour jouer au jokari ou je sais pas quoi. C'est pas ce propos-là. C'est effectivement d'aller plus loin. Pourquoi on est aussi intéressé par la conquête spatiale ? C'est parce que savoir ce qu'il y a plus loin. Parce que finalement, on pourra fantasmer pendant des millénaires ce qu'on ne connaît pas. mais la seule manière de connaître réellement les choses, de connaître le réel, c'est d'aller y voir, et que ben, peut-être qu'il faudra qu'on dépasse notre condition qui nous a fait terrien pour aller voir, y voir plus loin. C'est pareil pour l'augmentation de l'intelligence. L'augmentation de l'intelligence, de nos capacités intellectuelles, ça nous permettra de comprendre des choses qui auparavant nous étaient inaccessibles. Et même si c'est au point de vue individuel, puisque finalement, collectivement, on peut comprendre des choses qui nous sont inaccessibles collectivement, mais individuellement, ça a déjà aussi de l'intérêt de pouvoir voilà, accéder à des savoirs qu'on n'avait pas. Donc c'était, je sais plus, je me suis un petit peu perdu, mais dans une chose moi, qui m'a intéressé, qui m'a fait militer dans ce mouvement, c'est aussi le choix, l'augmentation l'augmentation de nos capacités, c'est aussi l'augmentation de nos choix. C'est-à-dire qu'on aura le choix de le faire, ça c'est une chose, mais surtout, par exemple, si on considère l'augmentation de la vie, la longueur de la vie, qui est une des choses au programme des transhumanistes et peut-être éventuellement une des choses qui arrivera dans les premiers, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement on aura le choix. Pour le moment, on est lié à des contingences qui font qu'on doit mourir et pour ça on n'a pas le choix. Peut-être qu'on va s'ennuyer. C'est une des craintes qu'ont souvent le public dans les questionnements. C'est mais vivre 300 ans, mais on va s'ennuyer. Peut-être. Mais si on n'a pas essayé, on ne le saura jamais. Et puis après tout, on aura le choix toujours. Même si on s'ennuie au bout de 300 ans, bah, y a toujours le choix de finir. Aujourd'hui, on n'a pas le choix de ne pas finir. Et c'est l'augmentation du choix, c'est pareil. Le fait de pouvoir mieux voir, par exemple, voir des choses qu'on ne peut pas voir. On est limité, nous, notre œil humain est limité à une certaine longueur d'onde. Et le fait de pouvoir augmenter les longueurs d'onde, par exemple, qu'on peut voir, va nous faire voir le monde complètement autrement. On pourra faire des nouvelles œuvres, on pourra voir des choses qu'on ne voyait pas avant, voir le monde autrement. Et rien que ça, je trouve que esthétiquement, déjà, c'est intéressant. Et pratiquement, ça n'aura peut-être pas beaucoup plus d'intérêt que ça, d'ailleurs, mais esthétiquement, déjà, et on aura le choix de le faire. Sinon, notre choix est limité à juste ce qu'on peut faire. Bon, voilà, pour l'histoire du choix.
Ouais. Sur ce choix-là, oui, c'est un choix d'espèce, mais est-ce que c'est un choix individuel? Parce que, bon, on dit qu'avec le transhumanisme, on dépasse notre condition humaine. En même temps, je ne suis pas certaine de ça parce que ça semble être notre condition humaine que d'essayer de toujours la dépasser. Ou si on le fait depuis que l'humanité est l'humanité, en ajoutant des bras, des jambes manquants aussi, des lunettes. Bon. Mais pour ce qui est de la question du choix, oui, en tant que société humaine, on aura le choix d'aller vers ces adjuvants-là. Mais individuellement, on voit déjà socialement... Bon, il n'y a personne en ce moment, en tout cas, je pense, personne qui est myope et qui dit « Ah, je vais choisir de rester myope. Non, je ne vais pas porter de lunettes. Moi, les lunettes, je n'aime pas. »
Pourtant, des personnes qui choisissent de rester sourds.
Oui, effectivement. Mais il y a une pression. C'est très récent. Il y avait une pression pour que les gens verbalisent, par exemple. On a mis du temps à accepter que non, les personnes sourdes peuvent avoir un langage des signes. Et ça fatiguait un peu les gens. Alors, on voit toute la pression. Alors... Je me dis, je dis pas ça pour être réactionnaire, pour dire ah non, les prothèses qui vont amplifier nos mouvements ou notre vue et tout ça, non. Mais est-ce que je m'interroge quand même sur la pression sociale qu'il y aurait? Si on avait cette possibilité-là, ben on serait un peu poussé à se faire amplifier, disons.
Il y en aura, je pense, mais ce sera ni plus ni moins que la pression sociale que vous décriviez pour les myopes.
Non, c'est ça, mais je parlais du choix. Mais
Tout dépend, c'est toujours la question, tout dépend de combien il y aura de personnes qui auront accès à ça, ça dépend du coût et tout ça, évidemment. Il y a une structure sociale qui se dessinera autour de ça, qui peut être très variée selon tout un tas de facteurs. Sur la notion de choix, moi, je suis très, très d'accord avec vous, parce que dans mes bouquins, j'ai des transhumains uploadés, hein, donc qui se numérisent le cerveau, c'est un des grands canons du transhumanisme, qui numérisent leur cerveau et qui s'uploadent dans un ordinateur. Et au début, ils n'ont pas le choix de mourir. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'ordinateur et puis ça ne s'arrête jamais. Personne n'a prévu le fait qu'eux-mêmes pouvaient avoir le choix d'arrêter. Et eux-mêmes, à un moment, redescendent vers les humains et leur disent « Attendez, là, il y a un truc qui cloche. Il faut absolument que vous nous donniez le droit au suicide. Sinon, ça ne marche plus, notre affaire. »
important. Je suis un peu surpris de ça. Parce que je suis fasciné par l'idée d'un canon. Roman, hein. Je sais. Non. Mais je suis fasciné d'abord par l'idée et l'effort que certains déploient pour établir un canon transhumaniste. Parce que c'est quand même nécessaire. À ce stade-là, en 2018, au bout de, je sais pas, désormais 50 ans de réflexion transhumaniste, d'une manière ou d'une autre, on a besoin d'établir un canon pour pouvoir dire, voilà, ça c'est accepté, ou alors ça c'est controversé. Déjà, savoir, par exemple, que H+, ce n'est pas la seule manière d'envisager le transhumanisme. Ça, ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, par exemple, par rapport au canon du mind uploading, c'est surprenant ce que vous dites, parce que, justement, le mythe d'origine, celui qui a été présenté, par exemple, dans Hans Moravec, dans Mind Children, était lié à un suicide. C'était quelqu'un qui se faisait applaudir et après, il y avait toujours ce moment où, une fois que je suis téléversé, je regarde mon vieux corps en chair et en os mourir. Et il y a toujours la question, évidemment, dans ce type de projection fantastique et fantasmatique, de quel est le ressenti de la personne transhumanisée qui voit son corps en chair et en os qui meurt. Et ça, c'est une question qui est pour moi fascinante et souvent je la vois un peu, abandonnée et négligée par la réflexion transhumaniste. C'est la question du ressenti. Face à cette surenchère de choix et cette surenchère même de nouveautés, même d'un point de vue moral, par exemple, cette insistance sur l'optimisme turbochargé, disait à une époque Max Moore, donc encore une fois, je vous parle des années 90. Face à ce besoin constamment de se projeter vers le futur, il y a finalement, ou alors du moins moi de l'extérieur, j'entends relativement peu de réflexions sur quel va être, par exemple, le portée psychologique de tout ça, quel va être le ressenti social de ça. Et social, je veux dire, même au niveau des individus, des groupes, qu'est-ce qu'ils vont ressentir face à ça?
Je pense que c'est là que les auteurs sont là pour réfléchir à ça, parce que finalement, le transhumanisme, c'est un mouvement d'idées, mais qui est plus comme un outil, qui va proposer un outil qui réfléchit effectivement sur l'éthique, ce qu'il y a autour. Mais effectivement, la réflexion de savoir comment une personne uploadée, sachant que c'est quelque chose qui, par exemple, dans le mouvement transhumaniste français, c'est pas quelque chose qui est discuté du tout. Hein. Le mind uploading, c'est pas un truc. On est sans être absolument terre à terre. On essaye de se concentrer tout de même sur les choses possibles et faire advenir déjà des choses qui seront possibles. Et c'est déjà assez compliqué. Donc
combien d'années faut-il cotiser si on vit 250 ans?
Cotiser à la sécurité sociale ou à l'association transhumaniste?
Non, plutôt pour la sécurité sociale. Mais ça, c'est une question très terre à terre.
C'est quelque chose auquel les auteurs de science-fiction doivent faire très attention. C'est quand ils se projettent dans le futur, c'est de projeter également la société dont ils parlent dans le futur, qui aura changé avec les technologies. Si on parle d'une technologie disruptive, puisque c'est le mot à la mode, et qu'on la projette ici, là, en 2018, effectivement, on est obligé de se coltiner avec cette grande nouveauté dans notre société. Si on parle par exemple d'une technologie d'augmentation qui arrive dans une société dans une centaine d'années par exemple, la société a complètement changé socialement, s'est adaptée à ces nouveautés, etc. Donc projeter un homme qui vivrait 250 ans dans notre société actuelle telle qu'elle est organisée, effectivement c'est problématique. Ceci dit, pensons-y, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur le sujet. On ne sait pas si... C'est le propre de la recherche, on ne sait pas, on cherche, on ne sait pas quand ça arrivera, si ça arrivera déjà, mais ça peut éventuellement arriver assez rapidement. Et si on n'est pas prêt à ça, voilà, il faut un peu se poser la question. Mais voilà, l'homme qui vivra 250 ans, c'est peut-être dans 50 ans, on y aura réfléchi, et effectivement, il faudra que notre système de... notre manière de travailler, notre système de cotisation, l'âge à laquelle on part à la retraite, enfin, tout ça va devoir changer, évidemment. Mais comme notre société a profondément changé, entre mon grand-père, qui est décédé à 103 ans il y a 5 ans, il est né en 1910. Voilà. Donc en 1910, l'espérance de vie était, à la naissance, était d'à peu près 60 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Quand il est décédé, donc l'espérance de vie à la naissance était pour les hommes de 83 ans, quelque chose comme ça. Donc la société est complètement différente. Mon grand-père a vécu plus longtemps en retraite qu'au travail. Bon, vous avez tous cotisé pour lui, je vous remercie. Mais il faut, on va être de plus en plus dans ce cas-là. Donc notre société a déjà beaucoup changé par rapport à ça. Et soyons assez intelligents pour l'adapter. Et quand on vivra 250 ans, moi je dis, accueillons cette nouvelle avec bonheur. C'est quand même quelque chose de formidable. Enfin, personnellement, je l'espère. Et transformons notre société pour que ce soit quelque chose de formidable, pour pas que ce soit une catastrophe. De dire, on va vivre plus longtemps et c'est une catastrophe. Bon. C'est le but de... Voilà, je m'arrête là.
Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Le mind uploading, c'est de la science-fiction aujourd'hui. Ouais. Et effectivement, le rôle des auteurs de science-fiction là-dedans, c'est évidemment d'imaginer tous les systèmes sociaux possibles qui peuvent exister autour de cette question-là et de voir ceux qui vont bien fonctionner, ceux qui vont mal fonctionner, là où éventuellement il y aura des luttes entre les uploadés et les non-uploadés, est-ce que tout le monde sera uploadé. Donc je suis entièrement d'accord avec vous, c'est à nous, auteurs de science-fiction, de faire le boulot sur cette question-là. Sur la cybernétique, c'est moins vrai, je trouve, parce que alors là, ça s'approche beaucoup plus vite, sur les implants cybernétiques, ça s'approche beaucoup plus vite, et là, je pense qu'il y a... les auteurs de SF peuvent aussi bosser, mais il y a...
Ouais, je ne sais pas si ça approche vraiment plus vite, parce que pour le moment, on est très très loin, tout ce qui est cybernétique, tous les implants cybernétiques.
Oui, ça dépend du niveau d'intégration, évidemment. Mais,
Et puis, les capacités de notre... aujourd'hui, c'est la pointe de nos technologies, mais qui, par rapport aux capacités du corps humain, sont absolument à ras de terre, il n'y a rien. Une main humaine, elle s'auto-répare. Vous vous coupez, ça se répare. Si vous faites des efforts, vous pouvez porter 5-10 kilos à bout de bras et puis vous travaillez dans 2 semaines, vous porterez 15 kilos. Un robot, pour le moment, la mécanique, c'est pas faire ça. La finesse de mouvement, le ressenti, vous avez des capteurs de ressenti sur toute votre peau. Enfin, bon, c'est infini. Pour le moment, on est très, très loin. Personnellement, alors, après, ça c'est un avis plus personnel, je pense que le transhumanisme passera d'abord par la biotechnologie. Je pense que l'adaptation, la compréhension plus fine des mécanismes biologiques et ce que fait déjà très bien la nature et l'arranger pour s'intégrer ces changements-là, je pense que ça passera d'abord par là. Je pense que pour le moment, la mécanique, tout ce qui est mécanique, électrique, etc., on est loin. Je pense qu'on passera... On commencera déjà par plutôt des implants proches du cerveau, des choses comme ça, plutôt que la mécanique. Je pense qu'on est... Aujourd'hui, la mécanique, c'est pas fiable. C'est pas fiable, ça se répare pas. Il n'y a aucune mécanique, existence humaine, qui dure autant que notre corps. Nous, on dure 100 ans, avec plus ou moins de difficultés à la fin, mais on dure 100 ans. Il n'y a aucune machine qui dure sans qu'on ait à changer les pièces, le moteur, etc.
Apple l'a produit, non. Mais il y a la possibilité d'empêcher que les machines meurent plus vite que les propriétaires.
C'est possible. Après, est-ce que c'est souhaitable de faire des machines qui dureraient 100 ans alors que finalement elles seraient obsolètes parce que la mécanique s'améliore, les vitesses des moteurs s'améliorent, etc. Donc pourquoi garder une machine 100 ans finalement qui serait moins fiable, moins...
On a des machines. Les machines qui durent depuis des siècles existent. Les horloges... Oui. Dans les églises, c'est des mécaniques,
oui,
qui existent.
Oui, elles demandent un entretien très régulier, évidemment, changement de pièces et restauration.
Mon corps demande chaque matin d'être lavé, nourri, ainsi de suite.
C'est ça. Mais je trouve qu'il est plus efficace qu'une horloge d'église. Enfin bon, qu'importe. Qu'importe, je ne sais pas si c'est pas la question, je ne sais plus où était la question d'ailleurs.
Non, c'est sur les implants cybernétiques, je suis d'accord avec vous, sur les implants cybernétiques très intégrés, ce n'est pas pour demain. Mais il commence à y avoir des choses intéressantes. Moi, il y a les deux exemples qui me viennent en tête, c'est Pistorius. L'athlète qui, avec des jambes purement mécaniques, là, il n'y a aucune électronique dans ses jambes, commence à courir presque aussi vite que les valides, et demain peut-être plus vite, donc ça pose pas mal de questions.
Pas demain, parce qu'il est en prison, là.
Oui, non, c'est vrai. Moi, je soupçonne d'ailleurs ses prothèses d'être coupables, mais...
Il a tué sa copine avec
un les prothèses
pistolet et pas des
coups. Voilà, il n'était pas dans ses jambes, le pistolet. Non,
C'est très intéressant de parler de Pistorius, parce qu'il a des prothèses qui lui permettent de courir une certaine distance avec une vitesse remarquable maintenant, mais elles ne servent qu'à ça. C'est-à-dire que Pistorius peut courir le 100 mètres, il ne peut pas courir le 200 mètres parce que ses prothèses commencent à lui faire mal. Il est obligé de courir des vitesses rapides parce qu'il ne peut pas courir sur la longueur, elles ne sont pas adaptées à ça, et il ne peut pas marcher avec. Quand il a ses prothèses, il est toujours obligé de sautiller parce qu'elles sont adaptées uniquement à la course. Donc, à moins d'être vraiment super fan de course et de se faire amputer les jambes pour se faire mettre des lames de carbone, c'est... Ouais. Voilà, pour le moment,
les jambes instrumentées, elles commencent à exister aussi. Et je pense qu'on approche pas très vite. Hein. Et le deuxième exemple qui est presque plus intéressant pour moi, c'est les artistes qui s'augmentent en se rajoutant des sensations.
Oui,
et
alors ça, ouais, ça
comme
ça,
Neil Orbison ouais. et ce ouais. genre de gens-là. Alors ouais. lui, il s'est réparé ouais. d'abord et puis après, il s'est augmenté. Mm. Mais il y a pas mal d'artistes qui commencent à intégrer. Alors, c'est pas complètement intégré dans leur corps. Si, il y en a que c'est intégré dans leur corps, d'ailleurs, à l'intérieur de leur corps, ouais. qui se rajoute un influx d'informations, donc un sens nouveau.
Ça, j'y crois plus, justement. Ouais.
Ouais. C'est, pour moi, c'est là ouais. le point de démarrage vraiment de la cybernétique ouais. fonctionnelle, nouvelle. Je peux donner juste un exemple. Il y a une chorégraphe qui s'appelle Moon Ribas qui a, je crois, dans le coude, implanté un capteur qui reçoit les signaux sismiques qui sont enregistrés un peu partout sur la Terre. Et donc, elle est sensible aux tremblements de terre qui ont lieu partout dans le monde. Donc, c'est une démarche assez artistique, assez cybernétique. Mais on peut imaginer plein de choses comme ça. Et je pense que demain, on aura peut-être tous des choses à l'intérieur de nous qui nous communiqueront des informations qu'on pourra choisir. Choisir de recevoir, je ne sais pas quoi. Donc, elle, c'est la sismologie, pourquoi pas, mais d'autres choses. Ça, à mon avis, c'est en ça que je pense que la cybernétique est vraiment en train d'arriver par cette petite porte-là.
Oui, ça je pense plus, oui. C'est des choses plus accessibles.
Tout à l'heure, on parlait, je vais revenir à la science-fiction un petit peu, parce que vous disiez, ah oui, c'est le travail de la science-fiction de nous permettre de voir ce que sera le post-humanisme demain. Et j'essaie de penser à quoi pourrait ressembler un écrivain ou une écrivaine de science-fiction post-humaniste à l'absinthe, juste à peu près la seule substance amplifiante qu'on a pu, ou tous les autres psychotropes, mais je ne sais pas, il n'y a pas nécessairement d'implant dans le coude pour taper des romans plus vite. Il y a peut-être y a le fantasme de toujours tous les écrivains d'avoir un pod dans le crâne pour capter directement les sensations. Mais c'est ça, je me demandais, je pense qu'il faudrait aussi s'interroger sur le rôle de la science-fiction, parce que la science-fiction, jusqu'à présent, a été assez bonne pour capter l'air du temps, mais quand on lui demande de faire de la futurologie, ça fonctionne un peu moins bien. La science-fiction et la prospective, c'est pas bon. Vous parliez aussi d'un homme qui serait né au début du siècle, l'espérance de vie était de 83, de 50, quoi, peu importe, était moins élevée que maintenant. Et ben, la science-fiction, généralement, travaille avec les données d'ici maintenant, les recherches, parce que bon, la science-fiction peut être à l'affût aussi des recherches, mais pour ce qui est de la prospective, elle n'est pas toujours très bonne. Et on n'est pas toujours très bon, en fait, en général, quand on essaie de faire de la science-fiction. Alors, je me demande comment on pourrait aussi organiser notre filage intérieur pour être des visionnaires post-humanistes.
Je pense que la science-fiction n'a pas à être prospectiviste. Elle est une réflexion sur la science, avant tout, et dans une perspective littéraire. Voilà, donc plutôt que de parler d'avenir de post-humanisme, en fait on parle de l'avenir de l'humain augmenté et de savoir quelle société ça va dessiner et vers quoi nous allons. À la limite, c'est pas seulement aux auteurs de science-fiction peut-être de réfléchir là-dessus, enfin il n'y a pas qu'eux d'ailleurs qui l'ont fait. On peut regarder le sociologue qui, mettons, sur tout ce qui est l'environnement numérique, est en train de réfléchir sur les usages, sur la manière dont les usages nous transforment. Et donc là, c'est exactement votre travail.
Oui, et en même temps, c'est une occasion aussi pour dire que, d'un certain point de vue, le transhumanisme, même si on vient de dire qu'il passe d'abord, ou il va passer d'abord par la biotech, à mon sens, passe d'abord, et jusque-là est passé surtout, par le politique. Par le politique et surtout par des postures ou des tentatives de se positionner face justement aux technologies qu'on a aujourd'hui, aux priorités qu'on a aujourd'hui, en laissant largement de côté, à mon sens, l'aspect purement économique de ces technologies. Parce que si, par exemple, les écrivains de science-fiction échouent à se projeter dans le futur, c'est pas seulement parce qu'ils ont des données d'aujourd'hui, bon, c'est clair, c'est un élément important, mais que les données d'aujourd'hui sont façonnées par des personnes qui achètent ces données. Et les personnes qui achètent ces données, c'est souvent des entreprises qui, d'une manière très transparente, se pointent, par exemple, dans nos colloques. Je pense aux collègues qui font de l'informatique et qui, tous les quelques mois, voient débarquer les gens de Google qui disent « Bon, écoutez, cette année, nous, on a besoin de ça, ça et ça, et donc vous allez étudier ça, ça et ça. » Et donc, eux, les scientifiques, vont produire des données selon des priorités business qui sont établies ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, doit, d'une manière ou d'une autre, au moins nous interroger. Parce que selon les priorités business, on projette, on produit des données qui, finalement, projettent dans le futur justement des scénarios qui, à notre sens, peuvent être, sont d'abord largement manipulés. Et on a besoin, justement, de produire des occasions de production de savoir, de production de données aussi, qui sont autres, qui sont alternatives par rapport à ça. Ça, c'est effectivement quelque chose qui, d'un certain point de vue, on attend du transhumanisme, et jusque-là, c'est un peu quelque chose à laquelle le transhumanisme passe un peu à côté, on va dire.
Moi, j'aimais bien votre idée de l'écrivain augmenté, là, ça me travaille depuis que vous en avez parlé. Alors, pour moi, l'écrivain augmenté, et moi, c'est un peu ce que je fais. Alors, je suis pas augmenté, hein, mais je suis plutôt diminué d'ailleurs. Mais l'écrivain augmenté, ça pourrait être celui qui, alors ça on le fait, c'est celui qui perçoit les signaux faibles dans la société, c'est-à-dire on entrevoit qu'il y a un petit truc là qui est en train de poindre, et c'est ça qu'on va raconter. Et moi, peut-être, ce qui me manque pour devenir un écrivain augmenté, c'est un simulateur quelque part qui serait là derrière ma tête, ce serait bien, un ordinateur avec lequel je serais connecté, sur lequel je pourrais tourner des simulations pour tester des hypothèses, en fait. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, on parle de voitures autonomes, par exemple. Alors voilà, si je pouvais tourner un petit jeu vidéo dans ma tête, là où il y a plein de voitures autonomes, et où je peux voir tous les problèmes que ça peut poser, je pourrais choisir mon scénario derrière, selon tel ou tel résultat de la simulation. Ça, ce serait assez intéressant. En fait, on le fait un peu, hein, mais ce n'est pas intégré vraiment à l'intérieur de l'écrivain. Et des fois, la société nous le renvoie. Moi, c'est marrant parce que vous avez évoqué Google. Moi, c'était en 2012, je crois, dans Thinking Eternity, j'écris un chapitre. Je suis chez moi, tranquille. J'écris un chapitre où j'imagine... J'envoie mes personnages dans un pays qui s'appelle le Googland. Vous voyez bien d'où il vient. Et puis je dis, tiens, j'argumente un peu la chose et je dis, peut-être demain, Google va racheter des pays. En fait, il y a des pays qui sont extrêmement endettés. Google a beaucoup d'argent. Et donc, pourquoi pas, Google rachète un pays.
Et c'est arrivé à l'Ontario avec Toronto. Exactement.
Pas tout à fait, mais...
Je ne suis pas au courant, mais...
c'est tout simplement le programme Smart City qui pratiquement a racheté une partie de Toronto.
Mais mais ils ne sont pas au pouvoir encore, donc ce n'est pas tout à fait un pays encore. Et donc, ils rachètent Donc, j'écris ça, je promène mes personnages, je suis en toile de fond, hein, c'est juste, je trouvais ça rigolo d'inventer justement cette petite partie de futur. 3 mois après, je vois une déclaration de Larry Page qui appelle de ses voeux des espaces pour expérimenter des nouvelles formes de gouvernance. Donc là, c'est la petite simulation, elle répond très très vite. Déjà, la société est déjà en avance sur le...
Ton cerveau était hacké.
I knew it.
Et à ce moment-là, on peut se demander donc justement quels impacts plus tard sur la société et qu'advient-il de tous ceux qui refusent les augmentations et tous ces progrès technologiques. Il me semble que c'est à peu près aussi dans l'esprit du transhumanisme de dire attention au virage manqué. Qu'est-ce qui se passerait si jamais nous ratons toutes ces transformations par frilosité, peut-être ?
Je continue sur mes histoires
Je peux juste répondre là-dessus. Par rapport, moi, je ne sais pas si c'est le sens de ce que vous venez de dire, mais moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai milité dans l'association. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, la France est très friseuse là-dessus. On est très peureux, on a peur. Moi, je participe à pas mal de débats et j'entends pas mal de conférences sur ce sujet. Je lis les intellectuels français là-dessus. On est très frileux, très peureux. Et moi, je ne dis pas qu'il faut y aller parce que ça vient et que c'est inéluctable et qu'on est obligé d'y aller. Je dis, allons-y, sinon on sera encore en retard d'un train. Et on ne tiendra rien de ce qui arrivera. C'est-à-dire qu'on ne sera pas aux commandes au niveau éthique, au niveau économique. On sera juste des clients. Donc, il faut qu'on y aille. Mais pas par dépit. Parce que c'est... Voilà. Avec le sourire.
Il faut considérer ça sereinement et un débat contradictoire dans la société avec le plus de gens possible.
Oui.
Et pour avancer un peu sur ta question, tout va encore dépendre du nombre de gens qui auront accès aux prothèses. Moi, j'imagine 2 scénarios un peu extrêmes. Donc, dans mes bouquins, après avoir fait le Googland, j'ai un milliardaire très cybernétisé. Il adore ça. Il refonde toutes ses entreprises pour faire de la cybernétique. Lui-même est extrêmement cybernétique. Et pareil, il a beaucoup d'argent, donc il rachète un pays. Et un peu malgré lui, parce que les gens cybernétisés dans les autres pays sont un peu ostracisés parce qu'ils sont peu nombreux, ils font peur et tout ça, son pays attire tous les cybernétisés. C'est-à-dire qu'ils migrent, ils ont un nouvel état dans lequel l'homme cybernétique, l'homme augmenté, a un statut qui est normal, je dirais, alors que dans les autres états, il est plutôt opprimé parce qu'il est peu nombreux et il fait peur. Ça, c'est le scénario où ils seraient très peu nombreux. Et à l'inverse, on peut imaginer le scénario où, où on serait tous cybernétisés ici. Et dans ce cas, je pense et j'espère même qu'il y aura, comme les Amish aujourd'hui, quoi, des gens qui auront le droit de se réfugier dans des villages où ils ne seront pas cybernétisés et on les laissera tranquilles. Il y a ces deux grandes extrêmes, je pense, et tous les scénarios sont imaginables entre les deux, y compris même peut-être encore plus extrême, la disparition complète de l'un ou de l'autre.
Ça, c'est le scénario de X-Men, par contre.
Ouais. Oui, dans le traitement des super-héros, il y a exactement la même chose. Est-ce qu'ils sont avec nous ou contre nous ?
J'ai envie de répondre aussi, pardon.
Oui. Non, juste, c'est le scénario d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne désirent pas vivre avec la technologie, qui ne vivent pas avec des téléphones portables, qui vivent avec le moins de technologie possible, aujourd'hui en France. Donc, c'est possible. C'est toujours un choix. Et justement, c'est là qu'on voit le problème du choix. C'est que le fait d'avoir des choses permet d'avoir le choix de ne pas les avoir. L'inverse, ce n'est pas vrai. Donc, je pense que ça sera toujours valable. Il y aura des gens qui s'isoleront et qui voudront vivre comme ça, et ça sera très bien.
Moi, je pense que c'est très important de ne pas les oublier, en fait, parce qu'on peut avoir tendance à les oublier. Dans la société actuelle, on oublie pas mal de catégories de gens.
Oublier, mais moi, j'avais envie de répondre aussi par une nouvelle, par une histoire de science-fiction. Donc, j'en ai parlé à une autre table ronde, mais je la trouve importante. C'est une nouvelle de Laurent McAllister, qui est la combinaison de Yves Ménard et Jean-Louis Trudel. Et ça s'intitule « Sur la plage des épaves ». Et c'est un vaisseau qui est envoyé en éclaireur sur une planète. Et à la vitesse supraluminique, ils arrivent sur la planète. La planète est couverte de bactéries. Ils doivent s'adapter. Alors, ils ont des implants, ils ont des places qui permettent, en fait, de les transformer d'une génération à l'autre. Alors, plus ils restent là pendant 4 ou 5 générations, isolés du reste de l'humanité. Et ils sont de plus en plus modifiés. Et vient une génération qui dit, « Mais non, mais nous sommes en train de perdre notre humanité. Retournons à notre état humain. » Mais là, retourner à l'état humain, ça veut dire vivre misérablement sur cette planète couverte de bactéries. Et le reste de l'humanité arrive dans des arches. Et les gens qui débarquent sont couverts, sont post-humains. Et ils les reconnaissent à peine. Ils sont la petite humanité misérable qui a rejeté la technologie. Alors, je trouve que c'est une belle métaphore aussi de cette résistance aussi à l'amplification de l'humain qui apparaît inéluctable dès le moment où on est capable de l'accomplir.
Ne trouvez-vous pas que cette manière de décrire justement ce scénario d'opposition entre des gens qui acceptent, qui embrassent, qui accueillent la technologie et des gens qui par contre refusent au nom de l'humain est une manière d'essentialiser l'humain. Essentialiser au sens d'un danger, de le réduire, de le figer à quelque chose qui n'a jamais été. Parce que soyons clairs, l'humanité qui vit décorrélée de son milieu technique n'existe pas. Même dans la préhistoire, on vivait avec des technologies qui étaient les technologies de l'époque, c'est clair. Et c'est impossible de refuser de vivre dans un milieu technique parce que le milieu technique est un milieu humain. Même aujourd'hui, les gens qui disent être déconnectés, finalement, c'est de la mauvaise foi largement parce que tôt ou tard, on découvre qu'ils sont connectés d'une manière ou d'une autre. Et même s'ils refusent personnellement d'être déconnectés, par exemple, Facebook ne refuse pas qu'ils soient déconnectés et ils créent des profils fantômes sur ces personnes-là. Et il y a des manières d'être connectés d'une manière passive. C'est ce qu'on appelle le traçage, c'est ce qu'on appelle le flicage. Donc, on a des manières, effectivement... Bon, la seule manière pour nous d'exister, c'est dans un milieu technologique. Et finalement, ce qu'on appelle transhumanisme est une manière au moins d'avoir un débat sur quel est un milieu technologique adapté à l'humain. Ou alors, au contraire, et ça c'est paradoxal, quel est l'humain qui est adapté au milieu technologique. Mais c'est toujours, à mon sens, quelque chose qui ne peut pas séparer les deux conditions. Je ne sais pas quel est le modèle multi-agent que vous avez fait tourner, mais là il y a quelque chose qui cloche dans le deuxième scénario, je crois.
Non, pour moi, dans toutes ces questions-là, tout est affaire de continuité, en fait. Rien n'est blanc et noir là-dedans, en fait. Et tous les scénarios peuvent s'imaginer de façon très, très continue entre les extrêmes, quoi.
Très bien, je crois qu'il est temps de passer aux questions du public. Il nous reste quelques petites minutes. Il y en a plein.
Bonjour. Si c'est bon. Donc juste une demande de précision, on n'a pas énormément évoqué les aspects économiques. Est-ce que d'une certaine façon le transhumanisme, en tout cas tel que j'ai l'impression de le voir maintenant, il n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes qui a les moyens? Et qu'est-ce qu'il en est pour les personnes qui n'auront pas les moyens justement de devenir transhumains? Parce que là on a parlé du choix justement de ne pas l'être. Et des personnes peut-être voudront l'être et ne pourront pas l'être. Donc justement, j'aimerais vous interroger sur ces notions-là.
Alors, je peux répondre. Je te laisserai. Bon, alors, il faut être clair. Pour le moment, les technologies transhumanistes n'existent pas. Donc, on peut dire ça sera réservé qu'aux riches. On ne sait pas ce que ce sera. Si, imaginons que ça vienne par une petite pilule qui est grande comme ça. Et en fait, le problème est le modèle économique qui sera choisi pour ces technologies-là. Les gens qui produiront ces technologies-là pourront choisir soit de le vendre très cher à très peu, ou peu cher à beaucoup. Moi, je ne suis pas économiste, je ne sais pas un économiste qui penserait du modèle économique de vendre très cher à très peu. Je pense que ça ne fonctionnerait pas, tout simplement parce qu'il y a le système de la concurrence, et votre technologie, surtout aujourd'hui, où les choses sont de moins en moins faciles à cacher, rapidement, vous aurez une concurrence qui fera que le produit sera vendu à un peu moins cher, et un peu moins cher, et un peu moins cher. À mon avis, c'est ce qui arrivera, personnellement. Mais je ne suis pas économiste. Mais c'est une question d'économie. Voilà, c'est une question d'économie. Et c'est une question aussi de société. Dans quelle société ces technologies apparaîtront? Si c'est une société inégalitaire, quelle que soit la technologie, que ce soit un vélo super moderne ou n'importe quelle technologie, elle sera accessible qu'à ceux qui peuvent l'avoir, puisqu'on est dans une société inégalitaire. C'est à nous de le savoir.
Pour abonder dans le sens de cette question, est-ce qu'on a essayé quelquefois de faire une étude systématique de les personnes qui se définissent transhumanistes, quelle est leur stratification sociale? Ils viennent d'où? De quel milieu, par exemple?
Alors déjà, ceux qui se disent transhumanistes, il n'y en a pas beaucoup. Déjà. Alors,
justement, c'est d'autant plus simple.
Ouais, c'est surtout difficile à les trouver. Donc, on ne saurait pas dire. Moi-même, dans l'association, en fait, on a vraiment toutes les catégories sociales et de métiers, etc. Mais on n'est pas énormément.
Des plombiers transhumanistes à l'AFT.
Oui. On a des gens qui travaillent dans les jardins, voilà, qui font les jardins. On a des chirurgiens, on a des juristes. Enfin, vraiment, il y a vraiment de tout. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Mais juste je veux revenir sur l'histoire de l'économie. Voilà. Quand je dis que je milite à l'association pour qu'en France, on s'occupe de ce système-là, de ça. Quand ces technologies arriveront, aujourd'hui, en général, quand on fait des conférences et qu'on demande aux gens s'ils voudraient, par exemple, avoir 20 ans de vie en plus en bonne santé, beaucoup ne lèvent pas la main. Ils disent non, on va s'ennuyer, enfin bon, quelle que soit la raison. Moi, je suis persuadé que le jour où cette technologie arrivera, ça se répandra très vite. 20 ans en bonne santé, tout le monde achètera. Si c'est fabriqué par Google ou n'importe qui, quelle que soit la personne ou l'entreprise qu'on veut bien conspuer, si c'est fait là-bas, ça fait là-bas. S'il n'y a rien ici en France, s'il n'y a pas de moyens de concurrence, si les études n'ont pas été faites, si on n'a pas lancé le début de science par rapport à ça, ça viendra de là-bas et on sera juste des clients. Voilà. Donc à nous de voir ce qu'on veut faire avec ça.
Mais on est déjà client de Google, donc ça va?
Oui, voilà.
Les États-Unis sont aussi clients de Google, en fait.
Une autre question.
On peut espérer qu'on serait plus sage aussi, mais c'est vrai qu'en même temps, tout ce qui permet maintenant de réparer le corps a un prix. Alors, je me demande, je sais pas si je suis pessimiste, mais je me dis que tout ce qui permettrait d'amplifier le corps transhumain aurait un prix. Moi, je suis pas très optimiste, à moins d'essayer de l'établir comme une utopie, quelque chose de... Maintenant, c'est dans le virtuel, mais une fois qu'on va être dans le réel, on va pas arrêter d'être dans des États néolibéraux où on va s'arracher les technologies. Alors, je serais pas aussi optimiste.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met à réfléchir à des outils qui permettront d'éviter que ces technologies ne soient accessibles qu'à certains?
Oui, tout à fait.
Ou on se dit, bon, il n'y a rien à faire et ça sera inéluctable. Parce que les plus riches et vous, enfin, tous ceux qui pourront se le permettre, s'ils ont la technologie pour vivre 20 ans en bonne santé, ils y accéderont, ils essaieront d'y accéder. Donc, est-ce que immédiatement, on met déjà les outils de contrôle, un petit peu comme les agences de contrôle du médicament, en contrôlant justement ces agences elles-mêmes, qu'elles soient pas corrompues, voilà, parce que c'est pas un système absolument parfait, celui qu'on a là pour le médicament, par exemple. Mais est-ce qu'on ne fait rien en se disant de toute façon c'est inéluctable et il y a que les plus riches qui auront accès et ce sera effectivement comme ça, ou tout de suite réfléchissons ensemble, mettons les outils en place pour que ça ne soit pas comme ça.
Oui, tout à fait. Gardons-le à l'esprit tout le
voilà.
temps.
Voilà.
Oui,
oui. Une toute dernière question. Il nous reste 2 minutes.
Bonjour. Du coup, tout à l'heure, vous parliez de vivre 250 ans grâce aux nouvelles technologies. Et je pensais au fait que si, avec les 7 milliards d'êtres humains qu'on naît sur la planète, ça, il se peut que ça pose problème de, que tout le monde vive aussi longtemps.
Alors, je peux faire encore moi, désolé, très rapidement. Il y a des études, des simulations qui ont été faites. Et le problème de surpopulation, ce n'est pas tant le nombre d'années qu'on vit, effectivement, mais le nombre d'enfants qu'un couple va faire. C'est-à-dire, si vous faites une simulation très rapide entre une personne qui a une espérance de vie de 80 ans dans une société avec 2,1 enfants par femme, par exemple, et vous faites la même simulation d'évolution des populations avec des gens qui vivent 150 ans, mais avec 1,9 personnes, enfants par femme, vous verrez très rapidement que l'explosion démographique, elle n'est pas du côté des gens qui vivent 150 ans. Aujourd'hui, on est...
Parce que la fertilité est concentrée entre les 20 et les 40, c'est ça?
Alors, pas nécessairement, justement. Pas nécessairement. En fait, l'idéal... En fait, on ne sait pas quelles sont les technologies qui feront qu'on va vivre 250 ans. On parle de science-fiction, hein, on est d'accord. Si cette technologie consiste à empêcher les cellules de vieillir, alors effectivement, a priori, la fertilité des femmes sera plus longue et il n'y aura pas nécessité de faire des enfants assez tôt. On pourra faire une carrière, etc., enfin, faire vivre sa vie et avoir des enfants beaucoup plus tard. Donc, finalement, le tuyage des générations se fera de manière identique. Les enfants arriveront plus tard. Et encore une fois, c'est surtout le nombre d'enfants qui fait la différence. Les technologies qui rendront possible ça, vont apparaître dans nos sociétés, aux États-Unis, en Chine, en France, au Japon, des sociétés comme ça. Des sociétés où le problème n'est pas la surpopulation, mais au contraire, le déclin de la population. Donc il n'y a rien d'automatique là-dedans, mais historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Les sociétés riches font moins d'enfants et ont plutôt des problèmes de perte de population qu'autre chose. Mais je vous engage à faire cette simulation ou à aller voir les gens qui ont fait cette simulation et vous voyez, c'est très clair, c'est pas la durée de vie qui fait la différence, c'est le nombre d'enfants qu'on a par femme.
Très bien, ben je vous remercie tous nos invités. Vous pourrez les retrouver en dédicace, bien sûr.